Attention, attention, heurage moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Bonsoir, et oui, il est 6h, 6h avant minuit, bienvenue dans votre émission d'actualité locale préférée. La Corée du Nord envoie 12 000 soldats en Ukraine pour appuyer l'offensive de la Russie. En plus de la dimension effrayante de cette nouvelle, parce qu'elle marque une escalade sans précédent dans le conflit, elle m'interroge sur un autre point. Qui sont ces soldats et quel intérêt ont-ils à se rendre à l'autre bout du monde, mourir dans un conflit n'ayant probablement aucune influence dans leur vie ? Si ce n'est bien sûr que cette guerre risque d'y mettre un terme à leur vie. L'intérêt, c'est sans aucun doute le prix de leur liberté. Le prix de la liberté, c'est le titre d'un documentaire réalisé par Madeleine Gavin. On y voit filmer en caméra embarquée les tentatives de fuite de Coréens et de Coréennes du Nord au péril de leur vie. On en ressort forcément pétrifié par la quête de liberté de ses familles, de ses enfants, de ses aînés, de ses femmes et de ses hommes endoctrinés et soumis au joug mortifère de la dynastie des Kim. Il est encore visible sur Arte TV et je vous le conseille. Tout de suite, le flash d'Anthony.
Les médias turcs ont annoncé la mort de Fethullah Gulen aujourd'hui. Il est décédé aux États-Unis où il résidait depuis 1999. Mais qui est Fethullah Gulen ? Eh bien, il s'agit d'un des opposants politiques du président de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Il a été accusé par Ankara d'avoir été l'un des artisans du coup d'État de 2016 destiné à renverser le gouvernement d'Erdogan. 2 ans après la COP15 sur la biodiversité, aujourd'hui commence la COP16 à Cali, en Colombie. Eva vous décrypte les enjeux de ce sommet sous tension.
La 16e conférence mondiale sur la biodiversité, ou COP16, s'étend sur 12 jours, commençant aujourd'hui et se terminant donc le 1er novembre 2024. Elle réunit les 196 États membres de la Convention sur la diversité biologique, CDB, afin de débattre et de faire avancer les négociations mondiales de la biodiversité. On parle bien ici de biodiversité, donc de l'ensemble des êtres vivants et des écosystèmes, et non du climat. Mais ces deux COP bien distinctes restent tout de même liées entre elles par un message récurrent : il faut protéger notre planète. L'effondrement actuel de la biodiversité met en péril le bon fonctionnement de notre planète. Les États l'ont compris et en décembre 2022, lors de la COP15 à Montréal, ils ont rédigé des textes promettant des actions concrètes contre ce déclin. L'accord cadre signé en décembre 2022, Kunming-Montréal, est un accord historique où les 196 États signataires se sont engagés à respecter 23 objectifs communs d'ici 2030. Parmi ces objectifs, les plus imposants et cruciaux sont les suivants. Protéger 30% de la planète, restaurer 30% des écosystèmes, réduire de moitié les risques liés aux pesticides et doubler les financements globaux en faveur de la protection de la nature. Dans ce contexte, la COP16, qui a lieu donc 2 ans après la COP15, est dans la continuité de cette dernière. Son but est de concrétiser les engagements faits il y a 2 ans à travers 3 enjeux majeurs. L'enjeu numéro 1, rendre compte des stratégies et plans d'action établis par les pays membres pendant ces 2 dernières années. Globalement, chaque pays doit répondre à la question « Quelles mesures allez-vous mettre en place pour stopper l'effondrement de la biodiversité ?» Selon la secrétaire exécutive de la CDB, Astrid Schoemaker, seulement 29 États membres ont soumis leurs stratégies et plans d'action nationales pour la biodiversité, vs 91 États membres qui ont seulement soumis des cibles, soit des idées de plans. Pourtant, rendre compte des avancées de chaque pays est nécessaire, explique Juliette Landry, chercheuse et spécialiste de la biodiversité de l'IDRI, un groupe de réflexion français sur le développement durable. L'analyse des premières stratégies doit permettre de juger si elles vont véritablement avoir un impact positif sur les écosystèmes et la biodiversité. L'enjeu numéro 2, revenir sur les financements des plans d'action. un objectif global de 200 milliards de dollars par an pour la protection de la biodiversité avait été fixé lors de la COP15. Mais les discussions restent tendues car les gouvernements ne sont pas prêts à mettre l'argent nécessaire pour remédier à la baisse exponentielle des fonds. L'enjeu numéro 3, plus tourné vers la recherche, débat sur le partage de bases de données. En effet, l'information de séquençage numérique, ISN, stockant des informations sur la génétique des êtres vivants, n'est pas accessible à tous les États de la COP. Pourtant, c'est un outil devenu essentiel dans la recherche sur la biodiversité. Enfin, Jane Goodall, une pionnière en éthologie réputée pour ses recherches sur les rapports humains-animal et une de mes idoles, s'est exprimée ce samedi 19 octobre lors de la conférence Une parole pour l'histoire à Paris. Son discours s'adresse directement aux États se réunissant lors de la COP16. J'espère que non seulement des décisions seront prises pour protéger la biodiversité, mais qu'elles seront suivies d'actions, car le temps des paroles et des fausses promesses est dépassé si nous voulons sauver la planète.
Ce lundi se réunit à l'hémicycle de l'Assemblée nationale le gouvernement de Michel Barnier pour le projet de loi de finances. À l'étude, l'augmentation de la taxe d'électricité, le renfort du malus sur les émissions de COD des véhicules de tourisme, une contribution exceptionnelle pour les grosses entreprises ou encore le rapotage du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. L'Ille-et-Vilaine est en vigilance jaune pour risque de crue aujourd'hui. Il y tombera jusqu'à 40 mm de pluie par endroit, surtout dans l'est du département. Les cours d'eau de l'Ille et l'Ille pourraient déborder. Plusieurs tirs ont été entendus hier soir dans les immeubles HLM dans le quartier de Villejean, dans le nord-ouest de Rennes. Deux personnes portant une cagoule ont tiré à l'aide d'armes à feu aux 9 rues des Nivernais. Aucun blessé n'est à déplorer. L'accident a lieu dans un point de deal connu des forces de l'ordre alors que le narcotrafic secoue de plus en plus notre ville. La Bretagne a vu naître un troisième parc naturel ce week-end. C'est celui de la vallée de la Rance, Côte d'Emeraude, qui englobe 66 communes de l'Ille-et-Vilaine et des Côtes d'Armor. L'espace naturel rejoint donc le parc naturel régional d'Armorique et du golfe du Morbihan. Le décret de non-naissance au parc a été validé par le Premier ministre Michel Barnier, puis publié dans le journal officiel ce samedi 19 octobre.
Merci Anthony pour ce flash. On a une invitée très très effrayante ce soir, hein, Eva.
On est une association de course à pied qui s'appelle Jogging Loisirs-Orgères et on organise l'événement tous les ans. Alors cette course en équipe existe depuis l'année dernière puisque nous, ça fait 13 ans qu'on organise le trail, la Belle d'Orgères. Et l'année dernière, on s'est dit tiens, voilà, faut qu'on se démarque un petit peu, faut qu'on propose quelque chose d'un petit peu plus foufou, quoi. On a lancé cette course un peu comme ça en déconnant. Et puis en fait, ce sont les participants qui ont créé eux-mêmes la course, qui sont venus déguisés, c'est eux qui ont mis l'ambiance. Alors grâce à nous aussi un petit peu quand même, hein, on a un peu aussi chauffé tout le monde. On organise nous le trail la Belle d'Orgères depuis 13 ans. On reçoit environ 1000-1200 personnes à l'événement et on voulait créer une course qui soit abordable pour tout type de personnes, y compris des non-coureurs qui ne sont pas des sportifs de tous les jours. Et on s'est dit bah voilà, ce sont certainement des gens avec qui ça a parlé et ça a rencontré le succès que ça a rencontré. Voilà, on a des Parisiens qui viennent, on a des gens de toute la Bretagne. On attend, alors on a bloqué le nombre d'inscriptions à 120 participants pour la raison très simple, c'est qu'on nous souhaitait conserver, et d'ailleurs c'est un peu la marque, un peu de fabrique de notre organisation, c'est qu'on souhaite garder des courses en fait à taille humaine. On reçoit déjà 1200 personnes, vous voyez, sur le week-end, c'est déjà beaucoup. Donc on a bloqué à 120 personnes, et donc déjà 120 personnes qui courent en même temps, en slip, dans notre village, ça fait déjà beaucoup parler. Ce qu'on voulait cette année, c'était reproduire l'événement, mais dans un cadre caritatif. Et donc cette année, on va reverser les fonds, une partie des fonds de la course, à deux associations qui sont Loisirs Pluriels. Loisirs Pluriels, ça permet en fait d'aider des parents qui ont des enfants malades dans leur vie de tous les jours, notamment sur l'hébergement de proximité auprès des hôpitaux et à l'Institut Curie pour la lutte ou pour la recherche contre le cancer, puisqu'en fait l'événement a lieu entre Octobre Rose et Movember.
Et au fait, Anthony avait oublié de vous dire ce que vous venez d'entendre. C'est pas tout à fait l'interview effrayante qu'on avait prévue. Ça va venir. Ce que vous venez d'entendre, c'est à propos de la course en slip. Les 2 et 3 novembre prochains aura lieu le trail de la Belle d'Orgères au sud de Rennes, au programme marche et course nocturne. Mais parmi ces dernières, une a particulièrement retenu notre attention, la slip run. On vient de vous en dire un peu plus. En tout cas, que ce soit pour courir en slip ou pas, il reste des places pour vous inscrire. Alors, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à braver boue et froid de novembre pour la bonne cause? Ben, vous venez d'entendre ce qu'il faut faire. Et puis, c'était la fin de ton flash, Anthony.
C'est ça ? Oui.
Merci. On est parti pour l'interview effrayante pour de vrai cette fois.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Lunettes rondes, queue de cheval basse, dite coiffure radiophonique, et pull violet obscur, rappelant que Élise Guillard, artiste associée et organisatrice de l'événement Vilaine Frayeur, est en face de moi. Bonjour.
Bonjour.
Alors, la mort, c'est le sujet qui revient en bouche en ce moment à l'approche du 31 octobre. Et vous, est-ce que ça vous fait peur, la mort ?
Oh, sûrement un petit peu, oui.
Est-ce que vous pouvez développer peut-être le rapport à la mort dans la Vilaine Frayeur,
ouais,
et au sein des ateliers du vent?
Oui, bien sûr. C'est la 3e édition cette année de la Vilaine Frayeur. L'idée vient d'une envie de célébrer joyeusement notre destinée de mortel, puisque nous sommes vivants. Donc l'idée, c'est d'aborder ce sujet qui n'est pas toujours évident. Voilà, et en même temps que ça soit aussi festif, aussi un moment pas triste en tout cas, quoi.
Pour revenir un peu sur le collectif en lui-même, les Ateliers du Vent, est-ce que vous pouvez nous parler des origines de des ateliers?
Ouais, alors les Ateliers du Vent, ça a commencé en 1996. C'est des étudiants de l'université de Rennes 2 qui sont rencontrés sur les bancs de la fac pendant la grève pour une réforme des retraites à l'époque. Et puis déjà, voilà. Et puis ils ont monté ce collectif. Ils étaient comédiens, plasticiens, sûrement d'autres choses. Moi, j'étais pas là à l'époque. J'ai rejoint l'aventure il y a 6 ans. Donc je suis nouvelle dans l'aventure. Et donc il y a eu plusieurs lieux en Rennes. Et depuis 2006, ça se trouve rue Alexandre Duval, donc dans l'ancienne usine Amora. Voilà.
Vous avez parlé de comédien, plasticien. Donc c'est globalement un milieu tourné vers l'art et vers les artistes. Et j'ai vu que vous êtes aussi, il y a aussi des bénévoles dans votre équipe. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la structure de l'équipe ?
Oui, alors c'est une association dans laquelle il y a une équipe de salariés, de 5 salariés, un CA, donc c'est classique pour une association avec donc des bénévoles investis, et il y a aussi un collectif d'artistes, donc de 36 artistes qui ont leur pratique artistique. Donc il y en a à peu près 17 qui travaillent dans le bâtiment, qui partagent des ateliers. Les autres sont associés au collectif, mais n'ont pas besoin d'un espace de travail régulier. Et ces artistes, en plus de pratiquer leur art, s'investissent aussi bénévolement dans l'association pour la faire vivre, aussi bien pour rendre possible des événements sur lesquels il y a besoin de coups de main qu'en tant que porteurs de projets, où là, ils sont aussi rémunérés s'ils se produisent ou s'ils sont porteurs d'un événement en particulier.
Et vous, est-ce que vous pouvez me parler un peu de vos projets, peut-être ?
Ah bah alors, mes projets à moi, en ce moment, en fait, je viens d'être maman et c'est plutôt ça mon projet du moment. Je suis un peu en stand-by de projet artistique, d'accord, ouais. Et sinon, dernièrement, le dernier projet que j'ai fait, c'est un roman photo qui s'appelle Enquête Bernard Duval, qui est une enquête sur le quartier autour des Ateliers du Vent et qui est distribuée gratuitement. Vous pouvez la trouver dans des coins des Ateliers du Vent ou d'autres lieux du quartier. C'est financé par Territoire et ça raconte l'histoire du quartier et du projet urbain du quartier. Voilà.
Je note. mais on va un peu revenir sur Vilaine Frayeur parce que c'est l'événement du moment. Donc ça commence ce jeudi 24 octobre et qui se termine le 3 novembre 2024. C'est soit 11 jours de frayeur, est-ce que c'est ça que vous avez prévu ?
Alors pas, oui, on pourrait dire, mais enfin pas 11 jours pleins quoi, puisque ça commence effectivement ce jeudi 24 et ensuite on se retrouve le jeudi de la semaine prochaine et ensuite ça enchaîne donc sur le vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3. Tu veux que je détaille la programmation ou...
Je vais commencer par ce jeudi 24 octobre, ouais. Donc le Café Mortel,
ouais.
Vous n'y allez pas de main morte puisque vous commencez sur un temps d'information sur la mort et comment l'accompagner. Donc, je me demandais pourquoi avoir choisi de mettre en place ce genre d'échange.
Alors, le thème en question, il a été choisi par la coopérative funéraire, donc on invite pour cette soirée, qui est assez connue à Rennes. Et puis ils ont fait un festival au mois de septembre, là, justement. Sur la mort, ce sont des gens qui travaillent dans le milieu de l'accompagnement des cérémonies et qui sont bien connus aussi sur un diminutif qui est la COPFUN, parce qu'ils savent aborder ce sujet aussi avec de la convivialité. C'est eux qui ont choisi le programme et donc ils défricheront sans détour le sujet de l'accompagnement au deuil et à la fin de vie pour nous aider à accompagner nos proches et nous-mêmes en fait dans ces événements qui nous attendent tous.
Voilà. Et est-ce que c'est accessible pour par exemple les enfants comme les adultes ou alors ce serait plus tourné vers des personnes plus âgées ?
Je pense que c'est plutôt à partir de l'adolescence, je dirais, okay. Parce que c'est à partir du moment, oui, où on a envie d'en savoir plus sur ce sujet, finalement. En tout cas, la soirée est en accès libre, donc on peut venir jeter un œil. Si on n'est pas sûr d'y passer la soirée, on se tourne vers le bar et puis voilà.
J'ai vu qu'il y avait un blind test mortel, voilà, qui est suivi.
Après cette discussion, il y a un blind test mortel, comme vous dites, qui sera l'occasion de tester vos connaissances sur les requiems et les chansons dédiées aux enterrements. Voilà, donc de quoi passer une bonne soirée, plein de fun.
Très fun, oui. Je vais avancer dans la programmation. Donc j'ai vu que sur plusieurs jours, vous avez la Dark Mochi Kitchen, si je le dis bien. Est-ce qu'on peut commencer peut-être par rappeler ce qu'est une Dark Kitchen ?
Oui, alors une Dark Kitchen, c'est un concept de restauration à emporter. Donc c'est un lieu, enfin de cuisine plutôt. Et donc c'est une cuisine qui ne se voit pas, c'est ça, Dark Kitchen. Comment dire plus que ça ? Finalement, on peut commander simplement. C'est des lieux où on cuisine, mais ça peut être complètement caché, quoi.
Et donc, plus concrètement, qu'est-ce que ce Dark Mochi Kitchen que vous organisez ?
Alors, c'est une création avec plusieurs artistes des Ateliers du Vent. Le célèbre Atelier du Ventre, composé de Catherine Duverger et Hugo Kostreva, accompagné de Maud Jégard, qui est comédienne, et Camille Riquier, pour la scénographie, et aussi 20 complices, habitants complices de Rennes, voilà, qui vont préparer tout ça cette semaine. Et l'idée, c'est de faire vivre une expérience immersive dans laquelle, le public va devenir complice de la remise en route d'une usine à mochi, racheté par le groupe Métamoche. Voilà, et donc c'est une expérience qui dure une heure sur fond de critique du capitalisme. Le public sera amené à réellement fabriquer des mochis et repartir avec un exemplaire d'une boîte de mochis destinée à la livraison, mais là ils pourront repartir avec, dont la consommation aurait le pouvoir d'adoucir la mort et ramener la prospérité. Voilà.
Waouh.
Ce que je peux dire de plus là-dessus, c'est que c'est en tout cas une expérience qui est ouverte à toutes et à tous à partir de 8 ans. C'est dans une ambiance décalée, assurée. C'est une usine ouverte sur le week-end seulement, qui ne réouvrira jamais. Donc c'est une expérience extraordinaire à ne pas manquer. Il y a des créneaux qui sont ouverts toute la journée du samedi et du dimanche, le matin et l'après-midi, sur réservation. Et on vous conseille, vous pouvez venir sur place directement, on vous conseille quand même de réserver pour être sûr d'avoir une place sur le créneau souhaité. Et puis vous pouvez en savoir plus en regardant sur le site des Ateliers du Vent.
Mais je me demandais comment vous est venue cette idée de mélanger un peu un cours de cuisine, en même temps vous dites des discussions sur le capitalisme, et en même temps un peu du théâtre où ils doivent être complices avec ce public. Est-ce que c'est des ateliers que vous faites régulièrement, ce genre d'ateliers pluridisciplinaires?
Alors c'est vraiment très relié au travail artistique de Catherine Duverger et Hugo Kostreva, donc sous le nom Atelier du Ventre, et c'est vraiment leur démarche de justement réinterroger des pratiques culinaires, donc là en l'occurrence le mochi qui vient des traditions japonaises mais qui est très tendance en France en ce moment, et avec ce côté du gluant, des textures moelleuses, des textures molles. Autour de ça, et puis ils en parleraient mieux que moi, mais en tout cas ils prennent des choses comme ça et puis ils réinterrogent qu'est-ce que c'est que ces ingrédients, qu'est-ce que c'est que ces textures, et ils font des parallèles avec des évolutions de société, et du coup ils nous plongent comme ça dans des expériences qui sont à la fois gustatives et réflexives. Donc on est là pour manger, pour faire pour goûter en tout cas, et avoir des cette expérience-là, mais aussi se poser des questions. Et puis, à son niveau, quoi. On peut être, pour les enfants, peut-être ils réfléchiront au mochi, peut-être moins, peut-être je ne sais pas.
Je voulais parler aussi du 31 octobre, ce fameux Halloween. Vous allez organiser un bal de la mort. Est-ce que vous pouvez me parler, par exemple, de la programmation, de ce qui va se passer?
Oui, alors donc le bal de la mort, ça commence à 18h le 31 octobre et ça finit à 2h du matin. Dans la soirée, qui est donc gratuit au moins de 12 ans, l'idée c'est de venir costumé pour l'occasion avec une tenue incorrecte et effrayante exigée. Si jamais vous n'êtes pas tout à fait au point, il y a deux maquilleuses sur place. Et puis, le programme, c'est d'abord, ça commence par DJ Vaudou. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est un nouveau projet de DJ Nito et son monstre. Et il va accompagner sur une partie de son set un défilé dansé déguisé. Donc là, tout le monde est invité, un peu sur le principe du Soul Train, à défiler pour qu'on puisse admirer tous les costumes de la soirée. Donc pour les enfants et les adultes, bien sûr. Ensuite, ça enchaînera avec un groupe qui s'appelle Six Singes. Donc il y a une musique qui a un côté un peu trans, en tout cas qui emmène dans une danse comme ça, et ils vont être situés en milieu de scène. Pas sur la scène, au milieu de la salle, et donc on sera placé tout autour d'eux. Et donc j'ai compris en tout cas qu'il y avait quelque chose de dansant qui peut tournoyer autour d'eux, donc j'ai assez hâte de voir ça, ça a l'air assez chouette. Et la soirée finira par DJ Lula, que vous connaissez peut-être, DJ Lula 666, qui donc nous fera un set endiablé, dansant, de musique chaleureuse comme SFR, et voilà, pour finir en beauté la soirée.
Vous avez parlé que c'était gratuit pour les moins de 12 ans. Est-ce que les tarifs des événements varient-ils? Est-ce qu'il y en a selon, par exemple, les âges, ou s'il y a la carte sortir? Est-ce que vous pouvez parler des tarifs?
Ouais, il y a des... Alors, il y a pas mal de choses qui sont sur un tarif 12, 10, 5. 12 euros tarif plein, 10 euros tarif réduit, et 5 euros sortir. Après, il vaut mieux regarder quand même dans le détail sur le programme, parce qu'il y a quelques petites variations. En tout cas, pour le bal de la mort et pour Dark Mochi Kitchen, c'est ça les prix. Ouais.
Pour continuer sur les événements terrifiants organisés lors de Vilaine Frayeur, Flaque Rose Sang de Régis Guingamp et Vincent Rode, est-ce que vous pouvez développer sur cet événement?
Ouais, alors Flaque Rose Sang, donc, c'est comme vous avez dit Régis Guingamp, je corrige son nom. Son nom de famille, pas de problème, qui est comédien et auteur, et Vincent Rode, c'est un compositeur et musicien. Ils se sont rencontrés lors d'un labo, enfin, ils ont commencé leur collaboration lors d'un labo de recherche artistique aux Ateliers du Vent, et ça les a menés donc à cette création. Et Flaque Rose Sang, c'est en fait l'histoire d'une enquête autour d'un meurtre sans cadavre. Et donc Régis raconte l'histoire et Vincent accompagne musicalement l'ambiance de cette lecture, en fait, lecture-récit, voilà. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, sinon...
Bah, je me suis dit, il ne faut pas non plus spoiler toute la programmation. Ouais. mais je me demandais, par contre, quand vous avez programmé ces artistes et ces événements, comment avez-vous fait vos choix? Comment avez-vous fait l'élaboration de cette programmation, globalement?
Cette année, donc, c'est Myriam Gauthier et moi-même qui avons fait la programmation, mais aussi avec des suggestions d'autres membres du collectif ou salariés qui avaient des propositions. Ce qu'on cherche à faire sur cet événement, c'est à la fois de proposer des découvertes d'univers d'artistes et en même temps d'être sur un format assez convivial, plutôt tout public et un festif de quartier. Enfin voilà, on essaie de mélanger comme ça plusieurs critères et d'avoir aussi une entrée participative pour pouvoir s'inclure dans la Dark Mochi Kitchen, parce qu'on a des complices habitants qui vont venir participer, mais aussi on peut faire du bénévolat, des endroits pour apprendre de la technique, être en technique sur les soirées, ou tenir le bar, ou faire des entrées. Enfin voilà, il y a plein d'endroits. L'idée, c'est aussi d'ouvrir le lieu et de rencontrer de nouvelles personnes. Et donc la programmation, elle fait appel à nos goûts aussi, enfin, ce qu'on a envie de voir, quoi, ce qu'on a envie de programmer dans le lieu. Je sais que moi, j'aime bien ce qui est plutôt performance et performance participative. Du coup, c'est un endroit que je cherche à faire exister aux Ateliers du Vent. Et puis après, Myriam, elle est plus... Elle est conteuse. Donc, par exemple, le spectacle de Titus, c'est de son fait. Et le partenariat aussi avec La Paillette sur le spectacle de Yannick Joulin. C'est nos univers qui définissent la programmation.
C'est très divers et ça a l'air très bien. Et si vous voulez plus de renseignements, allez vous renseigner sur le site des Ateliers du Vent. Merci beaucoup, Élise, d'être venue ici.
Merci, oui, et donc rendez-vous dès le 24 octobre aux Ateliers du Vent pour célébrer la meilleure période de l'année. Et oui, ce n'est pas Noël pour tout le monde.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
La chronique fake news du lundi cette semaine avec Aglaé. On entend de plus en plus parler de l'AME, Aglaé, l'aide médicale d'État. Alors, on aurait pu en apprendre plus concernant la nécessité de ce dispositif. Mais non, ce qui est mis en avant, ce sont les dépenses, l'argent, encore et toujours, et l'injustice présumée d'un tel dispositif, Aglaé.
Et oui, dans un grand débat qui s'est déroulé mi-octobre avec David Guiraud, député Nouveau Front Populaire, Anne-Laure Blin, députée Les Républicains, a répliqué sans cesse « Et pour ceux qui profitent ?» la fameuse question. Elle parle aussi, je cite, de dépenses esthétiques, de stérilisation et de transsexualisme. Donc elle n'a pas l'air très renseignée sur la question. Donc vous avez bien compris, les personnes exilées, je cite, profiteraient des aides de l'État. Pourquoi ? Afin d'avoir accès à certaines opérations. Jordan Bardella s'est lui aussi exprimé à ce sujet ce matin sur le plateau de CNews. Je le cite... à la fin des années 90, c'est devenu un totem pour la gauche qui considère que si vous êtes en situation irrégulière en France, on doit vous offrir la gratuité des soins jusqu'à l'opération qui vise à se faire recoller les oreilles et tout aux frais de la princesse, comprenez l'État. Il met lui aussi l'accent sur certaines opérations considérées comme esthétiques.
Mais est-ce qu'on peut revenir à la base, Aglaé ? C'est quoi également exactement l'aide médicale d'État, l'AME ?
Alors l'AME, c'est donc l'aide médicale d'État, tu l'as dit, et c'est-à-dire un dispositif mis en place en 2000 permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins.
Et pourquoi l'AME est si instrumentalisée ? Pourquoi cette instrumentalisation ?
Tout simplement parce qu'il faut faire des économies. Et oui, le budget 2025 est sur toutes les lèvres et combler l'endettement français dans tous les esprits à l'Assemblée. La dette publique, estimée à 3 228 millions d'euros d'après l'INSEE, a de quoi faire perdre la tête. Certains vont même jusqu'à remettre en question l'AME. Et le 15 octobre, le gouvernement, après avoir proposé une augmentation, a finalement décidé de geler les crédits consacrés à ce dispositif. Les réflexions de la droite et de l'extrême droite ont visiblement fait pencher la balance. En fait, tous ces discours peuvent donner l'impression que l'AME représente un budget considérable. C'est une technique basique de l'extrême droite, faire peur aux gens, leur faire croire que les personnes exilées volent leur argent. Mais cette aide ne représente en réalité qu'1,2 milliard d'euros. Alors comme ça, ça peut paraître beaucoup, mais c'est en fait une goutte d'eau. Seulement 0,5% des dépenses de santé en 2024. Concernant ce qui est pris en charge par l'AME, selon France Info, le dernier rapport en date sur le sujet est assez flou et ne dit pas précisément quels actes médicaux ont été réalisés. Mais on sait que le premier domaine médical à bénéficier de l'AME à l'hôpital concerne les séances de dialyse ou de chimiothérapie, donc vraiment pas du tout question d'opération esthétique. Le second poste de dépense, c'est l'obstétrique, et le troisième poste de dépense est le digestif, dont la chirurgie digestive, comme par exemple la pose d'un anneau gastrique qui revient souvent dans les exemples et qui ne représente que 0,2% du budget, donc autant dire que c'est minime. SOS Racisme, dans un communiqué commun avec d'autres organisations, alertait début octobre, la santé des personnes exilées est à nouveau instrumentalisée pour venir alimenter des considérations de politique migratoire. Cet appel n'a visiblement pas encore été entendu par les politiques.
Merci Aglaé pour tous ces éclaircissements. Il faut qu'on vous donne notre numéro.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô ? Allô ?
Syllabe, la radio sauvage.
Un message à nous faire passer, un fait marquant près de chez vous que vous aimeriez partager avec nous, une déclaration d'amour ou un coup de gueule, un retour sur nos reportages, laissez-nous un message vocal. Notre numéro c'est le 02 30 96 25 35. Votre message sera peut-être diffusé à l'antenne. En attendant, je vous dis à demain. Merci Nicolas pour la technique. Bonne soirée à toutes et à tous.
Exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe, la radio sauvage.